Contrainte comme nous tous de rester à la maison pendant les semaines que dura l'épidémie, elle glanait aussi des nouvelles à l'office. Elle passait des heures à importuner la pauvre Kathleen devant ses fourneaux ou à supplier Molly de lui laisser passer la serpillière ou préparer le feu dans les cheminées. Un après-midi, nous jouions depuis une demi-heure lorsqu'elle me dit tout à coup « Aujourd'hui, il y avait des mandarines au marché. On en aura une chacun au déjeuner. Puis, il y a une collecte pour acheter une jambe de bois à Mr. McKay qui a perdu la sienne dans un accident. » Un autre jour, elle franchit la porte battante qui séparait la cuisine du vestibule aussi précipitamment que si elle avait été en patin-roulette. « Daniel, Kathleen m'a dit que ta maison était prise. » « Prise ?» J'eus une vision de Hawthorne Cottage, prise d'assaut par des soldats armés jusqu'aux dents. « Comment ça, prise ? Elle est louée, occupée par une nouvelle famille. Une famille avec 4 enfants, d'après Mrs. Parker. Un enfant par année de mariage. » Mrs. Marlowe, qui traversait le vestibule, un vase dans les mains, s'arrêta net. « Sophie !»«
Mais c'est la vérité !» s'exclama-t-elle d'un air buté. « Et Mrs. Parker jure qu'elle a déjà vu toute la tribu galoper à travers le jardin. »
Je ne comprenais rien. Profitant de ce qu'elle courait annoncer la nouvelle à Marie et Cécilia, je suivis Mrs. Marlowe dans le jardin d'hiver. Après avoir fermé la porte pour que nous soyons tranquilles, je lui demandai « Comment se fait-il que la maison soit habitée par d'autres gens ? C'est ma maison !» Mrs. Marlowe soupira en secouant tristement la tête. « Hélas, non, Daniel, ta mère n'a pas payé le loyer ce trimestre. Mais moi, je pensais y passer toute ma vie. Je croyais que j'habiterais chez vous jusqu'à ce que ma mère aille mieux et qu'ensuite, non. » Je sentis mes genoux chanceler comme avant. Je fis un énorme effort pour achever ma phrase. Et qu'ensuite, tous les deux, nous allions. Devant le regard compatissant de Mrs. Marlowe, je m'interrompis. Que de signes précurseurs, que d'allusions discrètes j'avais volontairement ignorées. Quelle naïveté. Ma mère ne pouvait plus nous assurer la sécurité d'un toit. Plus jamais je ne retrouverai ma vie d'avant. Pour la première fois depuis qu'on m'avait fait quitter Hawthorne Cottage pour la maison des Marlowe, je me rendais vraiment compte de ce qui m'arrivait. Et soudain, j'éclatai en sanglots. Comment avais-je pu être aussi stupide? Au fond, jusqu'à ce moment, je n'avais fait que jouer un rôle, comme n'importe quelle poupée dans mes histoires imaginaires. On avait emmené ma mère, et j'avais obstinément refusé de regarder les choses en face, d'envisager avec lucidité le triste avenir qui s'ouvrait devant moi. Je m'étais tout bêtement replongée dans un bain de tranquillité. Je faisais certainement des rêves, mais tous les jours à mon réveil, je trouvais le moyen de ficeler mes peurs et mes angoisses, le profond chagrin qui me déchirait, et de les ranger soigneusement pour ne plus les voir, comme si elles n'étaient rien de plus que le pyjama que je prenais soin de plier et de cacher chaque matin sous mon oreiller. Je pleurais à chaudes larmes dans les bras de Mrs. Marlowe. Les filles entrèrent plusieurs fois sur la pointe des pieds, aussitôt renvoyées par leur mère. D'abord pour aller chercher une couverture à me mettre sur les épaules, puis pour nous laisser tranquilles tandis que Mrs. Marlowe me caressait la tête, tamponnait mes joues, me serrait dans ses bras, comme pour me convaincre que malgré tout, je pouvais trouver un peu de réconfort en ce monde. Je sanglotais éperdument jusqu'à ce que mes larmes fussent taries. Ensuite, on me mit au lit. Mrs. Marlowe me borda et resta assise à mon chevet le temps que je m'endormais.